Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Nous sommes de retour sur les ondes de CFAQ 88.3 pour parler d'une toute nouvelle chaire de recherche ici à l'Université de Sherbrooke qui va s'intéresser à la réduction des méfaits causés par les dépendances comportementales. Voilà, on parle ce matin avec la professeure et chercheuse du département de médecine de famille et de médecine d'urgence à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, la professeure Magali Brodeur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, expliquez-nous que sont ces dépendances comportementales-là? Pourquoi elles sont souvent moins connues ou reconnues que les dépendances liées peut-être aux substances?
Oui, en fait, quand on parle de dépendance, on pense souvent aux dépendances avec substances. C'est qu'on connaît beaucoup. On pense entre autres dépendance à l'alcool ou encore aux drogues. Quand on est du côté des dépendances comportementales, c'est vraiment un comportement qui est en jeu. Donc, dans ce cas-là, on regarde plutôt du côté, par exemple, de la dépendance aux écrans, médias sociaux, Internet ou encore aux jeux d'hasard et d'argent. Donc, il n'y a aucune substance qui est en jeu. Et puis, l'objet de la dépendance est un comportement. On en entend un petit peu moins parler, en fait, pour diverses raisons, parce qu'il y a eu une reclassification là, dans la Bible de psychiatrie là, en 2013.
Okay.
Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus là, discuté là, dans la littérature et dans l'espace public.
Comment est-ce que ça peut influencer peut-être la vie des gens qui souffriraient de cette dépendance-là au jeu d'hasard, de cyberdépendance, etc.?
En fait, ben, les dépendances comportementales ont des conséquences importantes pour les individus qui en sont atteints, leurs proches, mais aussi l'ensemble de la société. Au niveau des conséquences sur les individus, on va penser entre autres à des impacts sur la santé physique, comme par exemple des maux de dos, de la sécheresse oculaire, diverses problématiques vont pouvoir émerger en lien avec la dépendance, mais aussi un impact au niveau de la santé mentale. Donc, on peut avoir parfois des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux qui vont être concomitants. Parfois, ça peut mener à des idées suicidaires, même dans certains cas tragiques au suicide. Mais on peut aussi voir des impacts sur les relations avec les autres. Donc, on peut avoir des conflits, par exemple avec notre famille. On peut aussi commencer à faire de l'absentéisme au travail. Donc, ça peut avoir un impact sur notre employeur, les gens autour et ultimement mais sur les soins et services de santé aussi. Donc, les impacts sont quand même assez là, importants de toucher la diversité de la société.
Mm-hmm. Cette nouvelle chaire de recherche-là que vous dirigez ici à l'université est la première au pays à se concentrer spécifiquement sur les dépendances comportementales. Pourquoi jugiez-vous peut-être que c'était si crucial à l'ère actuelle et quels vont être les principaux défis auxquels vous voulez vous attaquer?
En fait, c'est sûr que c'est une thématique, hein, c'est une thématique qui est très d'actualité. Donc, on en parle de plus en plus, surtout depuis là, la pandémie là, de COVID-19, où est-ce qu'on s'est retrouvés là, à la maison, souvent devant nos ordinateurs, confinés. Donc, ça a amené un peu une espèce de recrudescence d'utilisation d'Internet, des médias sociaux, des jeux vidéo, par exemple, du jeu en ligne aussi. Donc, c'est certain qu'on observe justement là, une montée aussi en termes de préoccupation, en termes de ces dépendances-là. Donc, on arrive là, vraiment là, juste à point pour pouvoir les étudier. Et donc, il y a de nombreux défis qui vont se dresser là, devant nous au cours des prochaines années. Mais notre objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter d'informations nouvelles pour pouvoir éclairer l'élaboration de nouvelles politiques publiques pour prévenir et réduire les méfaits associés là, à ces dépendances comportementales-là.
Vous travaillez sur plusieurs projets de recherche, dont un en collaboration notamment avec l'Auto-Québec pour justement la prévention des méfaits liés aux jeux en ligne. À quoi va consister peut-être cette collaboration-là? Et, parce que j'imagine que ça sera relié justement à cette dépendance-là aux jeux maintenant qui est accessible encore plus facilement d'une certaine manière en ligne.
Oui, mais en fait, le projet sur lequel on collabore présentement avec l'Auto-Québec, c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui vise prévenir et réduire les méfaits associés aux jeux en ligne et plus particulièrement à augmenter l'adhésion des personnes qui s'adonnent aux jeux en ligne, aux outils du jeu responsable qui sont disponibles sur leur plateforme. On va entre autres utiliser l'économie comportementale pour pouvoir inciter les joueurs à adopter les différents outils. Le projet est en cours, donc on pourra peut-être revenir vous voir pour vous parler là, des résultats et plus en détail là, de l'avancement là, du projet. Mais c'est un projet qui est extrêmement excitant et puis qui est une priorité là, pour nous là, présentement.
Sur les hyperdépendances, bon, il y a certaines études qui vont être concentrées un peu plus sur les 18-25, donc les étudiants. Pourquoi cette tranche-là d'âge vous semble particulièrement vulnérable?
En fait, on a beaucoup de données sur les adolescents en lien avec la cyberdépendance. On en a un peu moins du côté, c'est vraiment là, c'est ça, là, des adultes. Il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de la transition là, à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va essayer de poser notre attention là, dans le cadre d'un projet de recherche précis qui s'intéresse entre autres aux normes sociales associées à l'usage là, des téléphones intelligents chez nos jeunes adultes. Donc, ça va vraiment être important d'essayer de comprendre un peu les mécanismes en lien avec les normes sociales liées à l'usage des téléphones intelligents, la cyberdépendance, pour formuler des recommandations. Ça va être différent selon le type de clientèle. Donc, versus si on est adolescent, par exemple, qu'on réside chez nos parents ou un jeune adulte, ou est-ce qu'on a quitté le domicile, qu'on fait sur le marché du travail ou encore aux études supérieures. Donc voilà. Donc, une clientèle, c'est ça, là, intéressante. On fait aussi un projet qui s'intéresse à la population adulte de manière là, générale, mm-hmm. Parce que, comme vous dites précédemment, c'est une population sur laquelle on a peu là, de données. Donc voilà. Donc juste pour apporter de l'eau, là, c'est ça, là, au moulin, puis des données supplémentaires là, justement sur des populations qui sont un petit peu moins étudiées.
C'est sûr, on parle beaucoup de dépendance à la limite à l'utilisation d'Internet, mais est-ce qu'on compte aussi à l'intérieur le temps d'écran, par exemple? Parce que juste cette semaine, on parlait des enfants qui passaient trop de temps devant l'écran et qui avaient de la misère à être manuels par la suite. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous intéresser aussi au sein de la chaire de recherche?
Oui, mais c'est sûr que le temps d'écran vient effectivement là, influencer là, les risques, par exemple, de développer là, une dépendance. C'est certain que c'est quelque chose auquel on s'attarde là, parce que de plus en plus, dans la société dans laquelle on évolue, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. C'est ça, le derrière là, les écrans. Faut aussi départager le temps qu'on accorde versus aux activités professionnelles, à l'école, versus au temps de loisirs, quel type d'activité on fait sur les écrans. Mais nous, ce qui nous impacte, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment tout ce qui va toucher là, les méfaits, les conséquences sur la vie des individus, les conséquences négatives, mais aussi quand on arrive à développer vraiment là, la dépendance, parce qu'on n'est plus capable d'arrêter, de se déconnecter. Et donc, nous, c'est vraiment là, sur cet aspect-là spécifique là, qui nous intéresse.
En parlant justement de cette dépendance-là, comment est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'il y a une manière de prévenir ces comportements peut-être à risque-là pour prévenir ces répercussions-là surtout?
Oui, mais c'est sûr qu'il existe différentes méthodes pour justement là, s'assurer là, de prévenir, réduire les méfaits. Donc, tout d'abord, il y a tout ce qui est la prévention, hein, de se renseigner justement sur ces problématiques-là, de savoir là, qu'elles existent, de connaître les différents signes, par exemple, à reconnaître. Donc, on peut avoir besoin, par exemple, les jeux d'argent et d'argent, de jouer des sommes plus grandes. On va être irritable quand on va, par exemple, essayer de diminuer là, notre consommation. On va avoir essayé plusieurs fois d'arrêter, mais sans succès. On va être préoccupé justement par soit le jeu ou soit par les médias sociaux ou encore notre jeu vidéo. Donc, quand ça devient, c'est ça, là, une problématique. Et puis, excusez-moi, donc j'ai me rappelle plus votre question.
C'est surtout sur comment prévenir peut-être de manière efficace si on est peut-être témoin de personnes dans notre entourage qui pourraient peut-être correspondre à ce type de dépendance-là, oui.
Parfait. Bon, ben, je reprends, là, c'est ça là, ma réponse. Donc, oui, c'est ça, là, ben, agir en amont, connaître déjà les signes qu'on peut observer, faire des campagnes populationnelles pour pouvoir renseigner, c'est ça, là, la population, mm-hmm. mais aussi être capable de aussi se mettre des limites, c'est dès le départ, de faire des limites en termes de temps d'écran, des limites, par exemple, de temps de jeu, et puis s'assurer d'avoir des loisirs diversifiés. D'essayer justement là, d'éviter de concentrer trop son attention à un seul endroit, ça peut permettre aussi, là, c'est ça, là, de prévenir. Et puis parfois aussi, on peut avoir certains facteurs de risque qui peuvent aussi nous mettre un petit peu plus à risque là, de développer, par exemple, une dépendance comportementale. Ça peut être un autre trouble de santé mentale qui est déjà concomitant. Ça peut être aussi des antécédents là, familiaux, des antécédents personnels, d'autres dépendances. Donc, c'est aussi d'avoir ça, là, c'est ça, là, en tête là, avant.
Oui, parce que de la manière que vous en parlez, c'est vraiment comme une dépendance qu'on pourrait, ben, matérielle, entre guillemets, à l'alcool. On retrouve des similarités entre les deux, même si c'est un ordinateur ou une tablette, par exemple. Fait que c'est vraiment fascinant. Et en terminant, en tant que titulaire de cette recherche de recherche-là, quels sont vos objectifs à long terme et qu'est-ce que vous souhaiteriez accomplir au courant de votre mandat?
Bien, en fait, nous, notre objectif vraiment global, c'est de pouvoir contribuer à la prévention, la réduction des méfaits, à pouvoir contribuer aussi à l'élaboration de politiques publiques qui vont permettre d'agir en ce sens-là, mais aussi développer des nouvelles connaissances qui vont nous permettre de mieux comprendre ces problématiques-là et puis pouvoir améliorer les soins de santé et les services sociaux qui sont offerts aux personnes qui présentent une dépendance comportementale.
Je lisais aussi que vous aviez peut-être une approche participative avec les gens. Est-ce qu'on peut s'inscrire à quelque part? Est-ce qu'on peut vous aider peut-être dans vos travaux de recherche?
Oui, totalement. Ben, nous, on est toujours à la recherche souvent là, de patients, de citoyens, là, partenaires, sans nécessairement d'avoir une dépendance, ça peut être avoir un intérêt là, pour la thématique. Donc, souvent, on est des comités là, aviseurs pour nos différents projets de recherche. Mais on est aussi régulièrement à la recherche de personnes participantes pour nos différents projets. Donc, vous pouvez là, à consulter là, notre site web qui est brotherlab.ca pour avoir le plus d'informations sur nos différents projets et aussi nous suivre là, sur nos différents là, médias sociaux là, de la chaire. Quand on fait des campagnes de recrutement, là, on s'assure là, de les afficher pour que ce soit là, accessible là, à tout le monde. Donc, oui. Et puis, si en plus, vous avez un intérêt pour plonger directement dedans ou faire des projets de recherche, bien encore, là, vous pouvez nous contacter là, directement. Ça va nous faire plaisir là, de discuter avec vous et d'échanger.
Magali Brodeur, professeure chercheuse au département de médecine de famille, de médecine d'urgence à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.